Elle aurait pu jouer du violon en soliste ou en orchestre, mais elle a posé la baguette pour prendre la direction d'un orchestre, ce qui ne veut pas dire qu'elle ait pris la baguette du chef d'orchestre. Floriane Côté, directrice générale de l'orchestre Dijon-Bourgogne, êtes-vous d'accord avec cette biographie plus que résumée?
C'est effectivement assez intéressant. Alors après, c'est vrai que entre l'archet et la baguette du chef, il y a aussi un énorme pas à franchir. Et puis évidemment, après, de l'autre côté, au niveau de la mise en place d'un projet d'orchestre, c'est effectivement encore d'autres métiers. Mais je pense que ça résume effectivement un peu ce qui a pu me pousser à faire certains choix le long de mon parcours, de passer de l'un à l'autre, avec toujours évidemment pour cœur le métier de musicien d'orchestre que je souhaite défendre dans n'importe quelle position, avec n'importe quel objet en bois ou pas dans les mains.
Floriane Côté, si on revient un tout petit peu sur cette année 2023 définitivement terminée, quel événement dans votre domaine vous semble le plus important, celui qui vous a marqué, qui vous a fait vibrer?
La première chose évidemment qui me vient à l'esprit, c'est l'expérience formidable qu'on a eue sur les Victoires de la Musique. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour l'Orchestre Dijon-Bourgogne. C'était vraiment atteindre là quelque chose, alors évidemment artistiquement avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur le projet en lui-même, parce qu'évidemment on donne à voir des jeunes talents, on donne à voir un objet médiatique. C'est deux expériences différentes que de le vivre à la télévision et de le vivre en salle. Donc moi j'ai trouvé que c'était un exercice formidable. Déjà, ça a permis à l'orchestre de faire pour la première fois de la télévision aussi à ce niveau-là, avec des artistes qui sont derrière le chef, tout le monde est au clic. Enfin, c'était vraiment une expérience très enrichissante pour nous. On a adoré le faire.
Mais ça se passe quand même surtout au concert, après.
Alors, bien sûr, si je dois citer un événement, le deuxième, qui était pour moi le plus important cette année, c'était la merveilleuse invitation que nous a faite Jean-Michel Mathé au concours de Besançon. Donc à la fois l'expérience du concours de chef, qui était formidable, on a adoré faire cet exercice, et à la fois dans ce projet de 9e de Beethoven que nous avions construit avec l'Orchestre de Mayence et le chœur de l'Opéra de Dijon, et qui a été donné à la fois à l'Opéra de Dijon et également au Festival de Besançon. Et je dois avouer que ce premier concert à Besançon, ça m'a vraiment touchée, parce que déjà la salle, c'est différent. Vous savez, on a l'habitude de jouer à Dijon, c'est une énorme salle, c'est très impersonnel finalement. Et puis on avait préparé, parce que voilà, on a l'habitude de faire ça avec le chœur de l'Opéra de Dijon. On s'était dit, on bisse, on peut faire chanter une partie du public. Donc on avait travaillé avec Anna Sismat, le chef de chœur de l'Opéra de Dijon, pour faire des petits ateliers avant le concert pour que les gens à Dijon reprennent en chœur l'hymne à la joie. Donc on a fait ça à Dijon, ça s'est très bien passé. Et puis spontanément à Besançon, alors que c'était pas du tout prévu qu'on le fasse, il y avait une telle euphorie dans la salle, et en fait la proximité du cours salle a fait qu'il y avait une telle chaleur que tout d'un coup il s'est passé quelque chose. Et là vraiment j'ai trouvé ça formidable, parce que presque même spontanément le Joseph Bastien, notre chef, a proposé au public de rechanter l'hymne à la joie, et les gens étaient extrêmement préparés. Il y avait une vraie ambiance un peu de communion comme ça avec la musique qui était magnifique. Enfin, pour moi en tout cas, émotionnellement, c'était vraiment le point fort de toute la saison, ce moment précis où les gens chantent avec l'orchestre et dans ce théâtre, ce cours salle qui sonne magnifiquement bien. C'était vraiment une très très belle expérience.
Je vous sens prête à nous parler de 2024, Floriane Côté. Qu'en attendez-vous de cette année qui s'ouvre ?
C'est une année importante parce qu'on va à la fois continuer notre travail qu'on a entamé avec Joseph Bastien. On a plein d'étapes à franchir. Là, on avait des caps importants l'année dernière, notamment avec ses invitations aux Victoires, au festival, etc. Et là, on a, on va dire, des étapes un peu structurelles au niveau de l'orchestre, avec, j'espère, à la clé des renouvellements aussi sur les postes de musiciens. Donc ça, c'est un peu toute la partie, on va dire, structuration de l'orchestre. Et puis artistiquement, on a plein de belles choses qui vont se passer, notamment avec l'année Puccini, avec le centenaire de sa mort. On aura donc à la fois Turandot en janvier et puis Tosca en mai. Donc c'est quand même pas anodin, ça fait je pense une quinzaine d'années qu'on n'avait pas fait de Puccini à l'Opéra de Dijon. Donc là c'est le grand retour en force avec deux grands opéras majeurs du répertoire, et ça c'est quelque chose qui va être un très beau défi aussi pour commencer notamment l'année sur des productions lyriques d'envergure.
Restons dans le cœur de métier de l'orchestre, de jouer de la musique. Quel est vraiment l'événement que vous attendez pour 2024, deux opéras et au-delà de ça?
Au-delà de ça, on a aussi beaucoup de projets, notamment avec Adélaïde Ferrière pour la fête de la musique le 21 juin. Donc ça, c'est notre artiste associée, c'est-à-dire Adélaïde, elle est d'origine dijonnaise, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait découvrir son instrument, le marimba, sous toutes ses formes. Et on est en train d'entamer un processus avec elle de faire découvrir des œuvres du grand répertoire qu'elle retranscrit pour marimba et orchestre. Donc ça, c'est tout le programme qu'on va avoir avec elle à la fête de la musique. Et puis surtout, ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on commence aussi à travailler avec elle sur des formats autre que simplement le concert. On va aussi travailler sur des vidéos musicales. Elle a aussi toute une présence en ligne, digitale, qui est assez intéressante, qui est encore finalement peu explorée. Je cherche aussi le lien vidéo et musique. Donc là aussi, on est en train d'entamer des réflexions aussi avec elle pour faire d'autres projets aussi, notamment sur les nouveaux médias. Et puis après, on aura aussi évidemment une grande présence l'été sur les festivals, Festival des Nuits du Mont-Rhum, Festival Musique et Vin à Beaune. Et puis là, je vais presque un peu vite parce que j'ai même pas parlé du Cirba Octobre en janvier. Donc ça, c'est le grand concert de début d'année. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on faisait sur les concerts du Nouvel An. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On reprend le Carnaval des Animaux, un programme aussi autour de Piazzolla Portenio, avec William Sabatier, que nous avons tourné à la fois à Genlis et puis au Creusot. Et puis surtout, nous avons cette année un scientifique associé, ce qui est quelque chose de beaucoup plus rare dans une saison symphonique, hein. Et vous me demanderez, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors c'est tout simple, il est spécialiste des relations musique et cerveau. C'est Emmanuel Bigand, il est chercheur en neuropsychologie à l'Université de Bourgogne. Et il est membre de l'Institut universitaire de France. Et donc, avec lui, on va travailler sur un format, là aussi, on innove.
Vous avez déjà commencé, d'ailleurs. On trouve déjà des choses en ligne.
Exactement. Et puis, on a aussi cette idée pour le mois de mars. Et là, on va travailler donc avec Pierre Kechkegan, le directeur du théâtre d'Auxerre, où on a mis en place sur la semaine de musique et cerveau deux interventions, à la fois une conférence lors de la scène des idées avec la directrice de la revue Sciences Humaines et Louise Lérété et Emmanuel Bigand pour parler justement de ces relations musique-cerveau. Et puis, on a 2 jours plus tard un concert symphonique avec la 9e de Dvorak et puis du Florence Price, enfin, tout un programme construit sur mesure où on va aussi un petit peu décortiquer et lui va aussi intervenir pour montrer en direct pendant le concert qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau au moment où on joue telle ou telle musique. La grande richesse d'Emmanuel Bigand, c'est qu'il sait totalement aussi adapter son langage au public.
Florian Cottet, j'ai bien compris que nous aurions du grain à moudre sur BFC Classique lorsqu'il s'agira d'évoquer l'orchestre Dijon-Bourgogne. Si on consacre les dernières dizaines de secondes de notre conversation à vous abandonner le micro, si on peut dire, que nous souhaitez-vous pour cette année 2024 ?
Comme vous l'avez rappelé au début de l'interview, moi je suis avant tout une musicienne quand même. Et je pense que la première qualité d'un musicien, c'est l'écoute. Et je pense qu'on a tous besoin de beaucoup écouter en ce moment. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est la seule chose que j'ai à dire. Je pense qu'il faut savoir écouter et être attentif.
<t'->